Vous écoutez, on lit pour vous.
Sommes-nous prêts pour une nouvelle culture politique? Une lettre ouverte de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, parue le 26 février 2024 dans la presse. Je vais vous faire une confidence. Ça va bien à Longueuil. Je suis heureuse dans mes fonctions de mairesse. J'ai une équipe formidable autour de moi, des proches de confiance sur qui je peux compter jour après jour. C'est ce que je réponds aux personnes nombreuses qui m'interpellent avec bienveillance pour me demander des nouvelles depuis mon élection en novembre 2021. Parce qu'on entend que tout va mal tout le temps. C'est la voix que j'ai envie d'exprimer d'entrée de jeu aujourd'hui. La politique est un monde difficile, certes, comme le sont aussi bien d'autres milieux professionnels par ailleurs, mais c'est surtout un puissant outil de changement social, noble et stimulant, qui donne un sens à l'action de celles et ceux qui la pratiquent. Est-ce que les commentaires hargneux sont agréables à recevoir sur les réseaux sociaux? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est ardu de faire face à des menaces de citoyens agressifs? Bien sûr que oui. Sous protection policière depuis septembre, je suis bien placé pour en parler. Cela étant dit, la solidarité et la sollicitude dont la grande majorité de la population fait preuve dépasse largement ses comportements déplorables et ses attitudes inacceptables. Je me considère personnellement privilégié de recevoir autant de reconnaissance dans le cadre de mon travail. Je suis consciente que, n'étant pas dans l'œil public, la plupart des gens n'ont pas cette chance, peu importe à quel point ils travaillent fort ou font la différence, trop souvent dans l'ombre. La semaine dernière, mon homologue de Gatineau, France Bellil, a annoncé sa démission. Je ne ferai pas référence à son cas particulier, comme elle a choisi de se retirer de l'arène politique. Sa décision m'inspire néanmoins le respect. J'éprouve énormément d'empathie pour elle, ainsi que pour les quelques 800 autres élus municipaux qui ont pris le même chemin depuis les dernières élections. Chaque départ est une perte pour le service public, et la somme d'entre eux devrait effectivement commander une réflexion collective. Je suis d'accord avec France lorsqu'elle affirme que l'environnement dans lequel s'exerce la politique doit changer. Au premier chef, c'est nous-mêmes, les élus, qui devrions incarner ces changements. Avant de regarder ailleurs, il convient de donner l'exemple. Il n'est pas normal de constater les climats toxiques d'intimidation qui peuvent régner dans les hôtels de ville et dans nos parlements. La question qu'il convient de poser est la suivante. De quelle façon ces escalades sont-elles alimentées? Avoir l'état critique de plusieurs conseils municipaux à travers le Québec, où siègent exclusivement des indépendants? La partisanerie à outrance n'est manifestement pas propre aux partis politiques. Et à contrario, on peut très bien œuvrer au sein d'un parti sans s'employer à démoniser ses vis-à-vis. Nous en faisons la démonstration à Longueuil. Dès la campagne électorale, mon équipe et moi avons voulu avoir une approche résolument positive. Aucune critique, aucune attaque, parce que je suis convaincu que fondamentalement, ça devrait être ça, la politique. Proposer une vision emballante et nous concentrer sur ce que nous avons à offrir, sans diminuer celle des autres. Faire confiance à l'intelligence collective. Depuis l'élection, bien que la situation soit assez exceptionnelle, avec un seul conseiller siégeant officiellement dans l'opposition, nous adoptons la même posture de collaboration. Concrètement, nous avons par exemple rendu disponible la totalité des documents d'instance de manière transparente, en favorisant l'accès et la circulation de l'information pour l'ensemble des conseillères et des conseillers démocratiquement élus par la population. Nous œuvrons également avec ouverture au conseil d'agglomération au sein duquel Longueuil, comme ville-centre, est systématiquement minoritaire parmi les villes liées. Au-delà du nécessaire changement de culture politique, reconnaissons que des balises plus claires et des processus unifiés parmi les municipalités seraient plus que bienvenus dans les situations de conflit, que ce soit avec des citoyens, avec l'administration ou carrément entre élus. Déjà, Nous avons fait du progrès grâce aux démarches effectuées par les unions municipales que sont l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités qui ont obtenu une assurance juridique pour les élus et qui sont en voie d'obtenir du gouvernement du Québec l'accès élargi à un programme de soutien psychologique au sein des villes, programme généralement déjà accessible aux employés, mais qui exclut encore trop souvent les élus. Il s'agissait d'ailleurs de l'une des revendications de l'ex-mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, lors de sa propre démission. Un fonds permettant la médiation entre parties pourrait aussi faire partie des solutions considérées. Qui plus est, il faudrait urgemment encadrer les recours devant la Commission municipale du Québec, qui sont régulièrement instrumentalisés par des élus voulant nuire à leurs adversaires, ce qui n'est pas sans rappeler les recours portés devant la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale à quelques occasions. J'estime finalement que la réflexion doit dépasser le monde politique pour atteindre la sphère médiatique. Le texte Génération Charbonneau, publié sous la plume d'Yves Boisvert la semaine dernière, abondait dans le sens d'une réflexion qui m'habite depuis maintenant plusieurs années. La disproportion de traitement à laquelle se butent certaines fautes humaines et parfois bien inoffensives, du registre de la pudibonderie, disait Boisvert, commises par les élus directement ou indirectement par imputabilité. Le droit à l'erreur a disparu au profit de la guerre aux clics. Sans tomber dans la complaisance, admettons minimalement qu'une couverture plus équitable s'impose. Prenons le cas récent de Dominique Olivier et du soupide d'huître à Paris à l'époque où elle dirigeait l'Office de consultation publique de Montréal. Le traitement médiatique de cette affaire a-t-il été proportionnel à l'erreur commise et admise? Si ce principe prévaut en droit, il devrait aussi pouvoir servir d'introspection au sein de la communauté journalistique. Chère France, je suis profondément convaincu que les femmes et les hommes politiques peuvent être des modèles de vulnérabilité et d'authenticité. Je crois même précisément que c'est en s'assumant pleinement de cette façon que les choses pourront réellement changer. C'était « Sommes-nous prêts pour une nouvelle culture politique ?» une lettre ouverte de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, parue le 26 février 2024 dans La Presse.
L'aide médicale à mourir devra être offerte dans une ancienne église, un texte de Stéphanie Marin, paru le 6 mars 2024 dans Le Devoir. La maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, installée dans une ancienne église catholique, propriété de l'archevêché de Montréal, devra pour l'instant offrir l'aide médicale à mourir, même si cela contrevient au principe de la foi chrétienne. L'institution religieuse avait demandé que le récent article de loi qui oblige désormais toutes les maisons de soins à l'administrer soit suspendu dans l'attente du procès qui déterminera s'il est constitutionnel ou pas. Dans son jugement daté du 1er mars 2024, la juge Catherine Piché de la Cour supérieure a rejeté la demande de sursis formulée par l'archevêque. Elle a aussi refusé une exemption qui aurait été valide pour la seule maison Saint-Raphaël, située dans l'arrondissement montréalais de Côte-des-Neiges. Malgré l'intérêt significatif des demandeurs à protéger leurs croyances religieuses, cet intérêt a moins de poids devant le droit pour les Québécois d'accéder aux soins de leur choix, y inclut à l'aide médicale à mourir à la maison Saint-Raphaël, écrit-elle. Ce litige n'est évidemment pas terminé, mais il peut s'écouler des années avant qu'un jugement se prononce sur la validité de cet article de la loi concernant les soins de fin de vie. Le mardi 5 mars 2024, Québec s'est réjoui de la décision rendue. L'aide médicale à mourir est un soin, et tous les Québécois doivent y avoir accès, peu importe le milieu où ils se trouvent. La loi est claire. Les maisons de soins palliatifs doivent rendre disponible ce soin. Demander à des gens en fin de vie de se déplacer ailleurs pour recevoir l'aide médicale à mourir ne correspond pas à une pratique que l'on souhaite voir, a déclaré par courriel la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger. Une église fermée est convertie. Sous l'impulsion d'anciens paroissiens, de donateurs et de bénévoles catholiques, l'archevêque de Montréal avait accepté que l'ancienne église Saint-Raphaël-Archange, fermée en 2008, soit convertie en un projet pouvant bénéficier à la communauté, soit une maison de soins palliatifs. Au terme de ce projet, de plusieurs millions de dollars, la maison Saint-Raphaël a vu le jour en 2019. Elle compte 12 lits et les soins de fin de vie y sont donnés sans frais à des Québécois de toute confession religieuse. L'organisme s'est vu accorder un bail de 100 ans pour un loyer annuel de 1 $ comportant une série de conditions dont une très claire, l'aide médicale à mourir ne peut y être administrée. Ceux qui la désirent peuvent être transférés dans un autre établissement sous la supervision du CIUS, avait-il été expliqué à la juge. Tout roulait rondement jusqu'à ce qu'en 2023, le gouvernement caquiste modifie la loi pour obliger toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Ce qui a plongé l'archevêché dans un dilemme insoluble, avait plaidé devant la cour son avocat, Maître Jacques d'Arche. L'archevêque ne veut pas qu'on cesse d'y administrer des soins palliatifs, mais il ne peut accepter que la propriété, une ancienne église, serve à commettre des actes qui lui sont moralement inacceptables. Les croyances catholiques veulent que l'euthanasie constitue un acte moralement inadmissible, un meurtre auquel il est interdit de collaborer de quelque façon. Il s'est donc adressé à la cour, invoquant notamment sa liberté de religion et de conscience, protégée par les chartes. Le mardi 5 mars 2024, l'archevêque catholique romain de Montréal a dit prendre acte du jugement et étudier avec ses procureurs toutes les options pour la suite des choses. Il avait auparavant évoqué la possibilité de résilier à contre-cœur le bail de la maison Saint-Raphaël. La demande de suspension. Celui qui demande qu'une loi dûment adoptée par l'Assemblée nationale soit suspendue a une haute côte à gravir et doit remplir des critères légaux exigeants. Ainsi, les sursis ne sont accordés qu'exceptionnellement, rappelle la juge dans sa décision. Ici, la magistrate convient que la demande n'est pas frivole et qu'il y a une question sérieuse sur laquelle trancher. Elle précise que la modification législative nuit d'une manière plus que négligeable à la capacité de l'archevêque de se conformer à ses croyances. Le dilemme moral insoluble est réel. Et si un seul patient reçoit l'aide médicale à mourir entre les murs de la maison Saint-Raphaël, la tâche morale invoquée par l'archevêque constitue un préjudice irréparable auquel le jugement, au fond, ne pourra remédier, poursuit-elle. Une fois ces constats posés, la juge indique qu'elle doit maintenant évaluer qui subira le plus grand préjudice si l'article de loi est suspendu ou pas. Selon elle, le dilemme moral de l'archevêque est de moindre importance par rapport à l'intérêt public de respecter le droit de choisir son soin et son traitement médical, y compris le droit de recourir à l'aide médicale à mourir, devenu une réalité incontournable de la société québécoise. Car ce dilemme est celui d'un groupe restreint, composé de l'archevêque et des donateurs, bénévoles et anciens paroissiens, souligne-t-elle, et non pas d'un groupe significatif, comme la communauté anglophone du Québec ou encore la communauté catholique du Québec, note-t-elle. Pour cette raison, la balance des inconvénients ne penche pas vers la suspension de l'article de loi pour toutes les maisons de soins palliatifs. C'était « L'aide médicale à mourir devra être offerte dans une ancienne église », un texte de Stéphanie Marin, paru le 6 mars 2024, dans Le Devoir.
Au nom de la fierté, un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 21 février 2024 dans la presse. Je peux faire une blague? Les gars hochent la tête en signe d'approbation. Diana poursuit. Je perds la voix aujourd'hui. Ça tombe bien que le cours soit avec vous. Une fraction de seconde plus tard, dès que l'interprète termine sa traduction, tout le monde éclate de rire. Ils assistent au troisième atelier offert à l'initiative de la Maison des hommes sourds. L'ébéniste Diana Silva leur apprendra à fabriquer une planche à découper et elle en est plus ravie que stressée. C'est un défi de m'adapter à eux, mais eux s'adaptent constamment à nous. Je trouve ça beau de pouvoir mettre en valeur des personnes totalement capables de faire le travail. Marc-André Beaulieu, interprète pour le service d'interprétation visuelle et tactile, CIVET, assure le pont entre Diana et les 6 participants. C'est aussi lui qui me permet de dialoguer avec Martin Boucher, celui par qui tout a commencé. L'intervenant à la Maison des hommes sourds cherchait des activités à promouvoir quand il a découvert les ateliers offerts chez les affûtés. Non seulement il pouvait répondre à des besoins criants dans la communauté sourde, mais il pouvait également avoir un impact sur l'estime des hommes ayant recours au service de la maison. C'est dans notre mandat encourager la fierté. Et ne sommes-nous jamais plus fiers que lorsqu'on répare quelque chose soi-même, sans sacrer? Martin a soumis son idée au concours Communo-Inclusion du CIVET et obtenu les fonds nécessaires pour assurer l'interprétation d'une série d'ateliers de travaux manuels. Chez les affûtés, on a aussitôt été emballés. Dans une volonté d'inclusion, l'équipe offrait déjà des cours à des jeunes en réinsertion sociale, à des aînés et à des personnes sur le spectre de l'autisme, m'a expliqué le fondateur des affûtés, Michael Schwartz. Ne s'agissait plus que de s'adapter à une clientèle sourde. Est-ce chaque fois si simple? Martin Boucher me répond qu'aujourd'hui, l'inclusion est importante et facilitée, mais il convient que ça n'a pas toujours été le cas. Il se souvient d'avoir voulu orchestrer une sortie de type « arbre en arbre » avec d'autres personnes sourdes il y a une dizaine d'années. On lui avait rétorqué que c'était impossible. On n'avait posé aucune question et encore moins cherché de solution. C'était juste non. Ce temps est révolu, ajoute-t-il. Aujourd'hui, le gros enjeu, c'est plutôt le financement pour payer les interprètes. Leur présence est toutefois cruciale. Pascal Lajoie en est à son troisième atelier chez les affûtés. Il a précédemment appris à réparer un mur et à sculpter du bois. C'est un gars manuel, un opérateur dans une imprimerie. Pourtant, il n'assisterait jamais à de telles formations sans interprète. Comment pourrait-il savoir manipuler les outils en toute sécurité? Ce serait carrément dangereux. Thomas Sinnick ajoute qu'on pourrait communiquer par écrit, mais que ce serait bien trop fastidieux et que de toute façon, c'est important de créer de tels espaces pour la culture sourde. L'enjeu dépasse le savoir-faire. Jonathan Roson me l'avoue sans détour. Il est ici pour aider son moral et briser l'isolement. C'est justement l'une des missions de la Maison des hommes sourds. Martin Boucher m'explique qu'avant sa création, en 2013, les hommes du Grand Montréal avaient peu de ressources accessibles en langue des signes sur le plan du bien-être psychologique et relationnel. Que ce soit au sujet de la gestion des émotions, des problèmes juridiques, des dépendances ou de la discrimination. Il me lance une phrase qui me restera plusieurs jours en tête. Vous avez accès aux informations qui circulent, ne serait-ce qu'en écoutant la radio. Nous, on n'a pas nécessairement ces connaissances. On est exposé à tellement de savoirs sans même chercher à l'être. La vie s'en est donnée, livrée et reçue sans effort et tout autre. En 3 ans, la demande a augmenté de 250% à la Maison des hommes sourds. Les 2 employés de l'organisme à but non lucratif font 250 interventions par mois auprès d'une clientèle majoritairement composée de trentenaires et de quadragénaires. Martin rivalise de créativité pour leur offrir du soutien. À la fin de mars, il lancera un nouveau projet de 10 semaines, un groupe de discussion sur l'estime de soi en collaboration avec l'organisation Relief, spécialisée en santé mentale. Mais pour l'heure, le défi est d'ordre manuel. Diana Silva entame le cours en expliquant son parcours. Lorsqu'elle parle de restauration de meubles, Marc-André se mélange et interprète le mot « restauration » comme si elle parlait d'un resto. Brève confusion. Martin souligne le quiproquo, tout le monde rit. Les gars s'esclaffent aussi quand la chef d'atelier leur annonce qu'elle va mettre des protections auditives avant de lancer la machinerie. « Ils n'en auront pas besoin », qu'ils répondent. Puis, Diana les invite à choisir l'assemblage de leur goût parmi 3 essences de bois. Cerisier, noyer et érable. Elle leur montre comment utiliser racloir, raboteuse, scie à onglet, perceuse à colonne, scie à ruban, sableuse et toupie pour créer leur planche à découper. Les participants n'hésitent pas à l'interrompre quand ils ont besoin de précision. Et elle est là, la beauté de l'exercice. Martin me l'avait dit plus tôt, il y a très peu d'espace où les personnes sourdes ne se retiennent pas de poser des questions par crainte d'être mal saisies. Ce soir, elles savent qu'elles ont pleinement l'occasion de se faire comprendre. C'est un soulagement. Un soulagement que l'équipe des affûtés espère contagieux. J'aimerais que d'autres structures sachent que c'est possible. Que des communautés isolées viennent travailler avec nous, m'a dit Michael Schwartz. Et moi, j'aimerais qu'encore plus d'organisations s'ouvrent aux accommodements nécessaires à la rencontre, l'autonomie et la fierté. C'est fou, tout ce que peut cacher une planche à découper. C'était Au nom de la fierté, un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 21 février 2024 dans La Presse.
Les féministes veulent donner la parole aux exclus, un texte de Caroline Monpetit, paru le 6 mars 2024, dans Le Devoir. Ella B. Glendinning est née avec les jambes courtes. Cela ne l'a pas empêchée de danser, de dessiner, d'avoir un enfant et aujourd'hui de réaliser un documentaire sur le droit à la différence « Is there anybody out there ?» qui est présenté en ouverture du Festival des Filministes avec sous-titres en français. Ce dont son documentaire fait la démonstration, c'est qu'Ella B. Glendinning a d'abord et avant tout souffert de son unicité. Elle cherche à travers le monde, à travers son écran d'ordinateur, quelqu'un qui a les mêmes jambes, le même corps qu'elle. En cours de recherche, elle remarque à quel point on lui propose surtout des solutions pour remédier à son handicap par le biais d'opérations de prolongement des membres toutes plus complexes les unes que les autres. Depuis sa naissance, il a cependant été établi que ces opérations n'étaient pas indiquées dans son cas. La question qui traverse le documentaire, c'est « Est-ce que je peux être simplement ce que je suis ? Ou est-ce qu'il faut absolument me normaliser ?» Avec cette soirée d'ouverture, le festival Les Filministes donne une fois de plus la parole aux personnes vivant dans la marge, peu visibles sur nos écrans. On essaie d'offrir un contrepoids à l'offre cinématographique actuellement en cours, en donnant vraiment la place à toutes nos séances à des personnes qu'on juge sous-représentées dans l'industrie du cinéma, explique Anne-Julie Baudin, qui co-dirige le festival avec 4 autres femmes. On parle autant de femmes, de personnes non binaires, de personnes racisées ou autochtones ou souffrant de handicap. On porte à l'écran les récits de ces personnes-là, autant par les réalisatrices que par les histoires elles-mêmes. Portées principalement par des femmes, les propositions des féministes portent autant sur l'éviction d'une communauté queer d'un immeuble de Montréal, éviction Mathilde Capone, 2023, que de résistance en territoire occupé, dont la Palestine, ou encore du sort d'une personne non binaire, Jenna Marvin, en Russie, Queendom, Ania Galvanova, 2023. En 2021, Jenna Marvin avait notamment réalisé une performance en soutien à l'opposant russe Alexei Navalny. Après chaque représentation, un panel d'expertes, universitaires ou militantes, est réuni pour débattre du sujet et répondre aux questions du public. Au moment de la soirée d'ouverture, le débat sera lancé sur l'accessibilité aux personnes handicapées dans une ville comme Montréal. On y retrouvera l'artiste Maxime D. Pomerleau, Catherine Théroux, journaliste pour Ami Télé, et l'activiste Alicia Anne Pold, qui s'est déjà exprimée publiquement sur le fait que la vie nocturne est particulièrement inaccessible aux handicapés à Montréal. On veut discuter de tout ce qui est accès à des commerces, accès à l'emploi et traitement dans le respect et la dignité dans le parcours médical de ces personnes-là. Donc, ce sont des enjeux à plusieurs niveaux, poursuit Anne-Julie Baudin. La programmation du festival compte aussi désormais une section initiant les enfants aux enjeux féministes, les films mini. Ces films minounes, pour 18 ans et plus, reviennent cette année au cinéma L'Amour avec un programme qui veut sortir la pornographie de ses stéréotypes. Né d'un groupe de femmes qui étaient d'abord étudiantes à l'UQAM, le festival Les Filministes a pris son envol de façon indépendante depuis 2017. Les Filministes, dans différents cinémas de Montréal, du 6 au 17 mars en 2024. C'était « Les Filministes veulent donner la parole aux exclus », un texte de Caroline Montpetit, paru le 6 mars 2024 dans Le Devoir.